Mes très chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de Saint-Vendry. Vendry de Fontenelle, ou Vendon, naquit en l'an 600, près de Verdun, aujourd'hui situé dans le département de la Meuse. La famille de Vendry appartenait à la noblesse d'Austrasie, royaume franc, situé au nord-est de la France pendant l'époque mérovingienne. Vendry serait le petit-fils de Valrade, la sœur de Pépin de Landenne, ou Pépin l'Ancien, grand-père de Pépin le Bref. Pépin l'Ancien fut un des maires du palais d'Austrasie. Sa famille était apparentée au maire du palais Pépin d'Héristal, père de Charles Martel. À cette époque, Dagobert, qui avait été délégué au service de son père Clotaire II, séjournait à Metz. C'est donc dans un milieu d'aristocrates que Vendry reçut sa formation et exerça ses premières fonctions. Et c'est ainsi que Vendry fut plus tard engagé à travailler dans la haute administration du roi Dagobert Ier. Vers 630, pour répondre à la volonté de ses parents, il dut se marier. Mais bientôt, sa femme et lui décidèrent de se consacrer à une vie monacale. Voici maintenant quelques petits détails. Notre Vendry entra, tout jeune, à la cour du roi Dagobert Ier, qui lui donna le titre de comte et lui confia l'administration des domaines royaux. Vendry accomplissait cette tâche avec loyauté, mais il se sentait attiré à consacrer sa vie à Dieu. Son biographe nota qu'il remplissait son office avec un grand sentiment de piété, ayant l'esprit continuellement occupé par la méditation des vérités célestes. Il exécutait loyalement les ordres du prince, rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On admirait sa sagesse dans toutes ses actions et l'amour qu'il avait pour tout le monde. Bientôt, Vendry eut la chance de rencontrer Didier, le trésorier du roi, futur évêque de Cahors, et Dadon, le chancelier, futur évêque de Rouen qui deviendra Saint-Ouen. Il rencontra aussi Paul, futur évêque de Verdun. Vendry les admirait, car ces dignitaires menaient, même à la cour, une vraie vie chrétienne très mortifiée. Mais les parents de Vendry, voulant sauvegarder les propriétés foncières de la famille, exigèrent qu'il se mariât. Or, Vendry pensait déjà à la vie monastique. Ce qui est étonnant, c'est que sa fiancée était dans les mêmes dispositions. Pour obéir à ses parents, Vendry se maria. Cependant, il se mit d'accord avec son épouse pour garder la virginité et se retirer l'un et l'autre dans un monastère. Vendry se retira donc dans une de ses propriétés de Lorraine, appelée Montfaucon, où vivait le saint ermite Baudry ou Baldric. Mais le roi Dagobert, qui n'acceptait pas le départ de l'administrateur de ses domaines royaux, collaborateur qu'il appréciait particulièrement, le roi convoqua Vendry, et Vendry vint au palais royal, vêtu de son vêtement d'ermite, et il obtint du roi l'autorisation de quitter le monde. Vendry se rendit alors dans le Jura suisse, afin d'y restaurer l'ermitage fondé par Sainte Ursanne. Là, pendant un certain temps, il mena la vie érémitique. Mais le démon, voyant ses progrès dans la vie spirituelle, l'assaillait cruellement, de jour et de nuit. Alors Vendry multipliait les prières, et même, pour résister aux tentations, il se précipitait dans un étang glacé, comme le faisaient les moines irlandais qu'il admirait beaucoup. Vers 635, Vendry se rendit à Rome, où il fréquenta les monastères bénédictins, dont le monastère de Bobbio, fondé par saint Colomban en 614. Mais bientôt il quitta Bobbio, et traversant les Alpes, il passa par le monastère d'Aoste à Romain Mautier, fondé par l'Irlandais saint Colomban. Il demeura dans ce monastère pendant une dizaine d'années, où il mena une vie d'ascèse intérieure, vie cachée d'humilité, de silence, de prière et d'obéissance. Cependant, un ange avertit bientôt Vendry que Dieu l'attendait ailleurs et que son neveu, Gand, l'aiderait dans de nouvelles fondations. Ayant appris que son ami Dadon avait été, en 641, nommé évêque de Rouen, Vendry se rendit en Eustrie, partie occidentale du royaume des Francs, et il accepta d'entrer dans le clergé de Rouen. Dadon, ou Saint-Ouen, l'ordonna sous-diacre, puis diacre. Enfin, saint Omer, évêque de Thérouanne, qui se trouvait à Rouen, l'ordonna prêtre, et Vendry travailla à la pastorale de son diocèse en évangélisant les païens. Mais cette vie trop active ne lui convenait pas. Il voulait retrouver la solitude, et en 649, Saint-Ouen lui donna la possibilité de s'installer dans le vallon de Fontenelle, dans ce qui deviendra le département de l'Aisne. Cette région, située dans la forêt de Jumièges, lieu qui portera plus tard le nom Saint-Vendry-Rançon, cette région marécageuse et boisée appartenait à Erquinoald, maire du palais de Clovis II, qui avait succédé à Dagobert. À la demande de Saint-Ouen, Erquinoald vendit cette terre au jeune Gand, le neveu de Vendry. Vers 649, Vendry s'installa à Fontenelle et s'associa avec Gand, son neveu, à qui il laissa le soin de s'occuper des affaires temporelles. Mais les débuts de la vie au monastère furent rudes. Il fallait défricher, assécher les marécages, planter des vignes et surtout prier beaucoup. Il ne restait que peu de place pour le travail intellectuel, et les hommes lettrés qui entraient au monastère devaient oublier ce qu'ils savaient et se convertir au travail manuel. Cependant, ces travaux manuels obligeaient les moines à entrer en relation avec les paysans, encore à demi païens. Vendry voulait les convertir, non par la force, mais par l'exemple et la douceur. Et si par hasard il leur reprochait trop leur impiété, il leur demandait pardon immédiatement. Pourtant, Vendry ne négligeait pas le progrès spirituel de ses moines. Humble et doux, très compétent dans les saintes écritures, c'était un véritable apôtre et un remarquable directeur de conscience. Les premiers biographes de saint Vendry ont conservé quelques-unes des exhortations qu'il donnait à ses moines. Voici quelques citations. « Mes petits enfants, disait-il, gardez-vous de toute souillure du monde. Aujourd'hui, nous vivons. Que sera demain? Nous l'ignorons. Rappelons-nous bien notre médiocrité de jadis. Nous étions fils de ténèbres, et par la miséricorde de Dieu, nous avons obtenu le pardon et sommes devenus enfants de lumière. Donc, renonçons aux œuvres des ténèbres et marchons à la lumière des préceptes du Christ. Prenez garde que le démon ne vous prenne au piège de la haine mutuelle. Mais au contraire, unis dans la charité, aidez-vous les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Cela suffira à mettre votre ennemi en fuite. Il ne peut en effet s'approcher de celui qu'il voit uni d'esprit et de cœur avec ses frères. Mais les forces de Saint-Vendry diminuaient et ses infirmités augmentaient. Certes, il poursuivait ses voyages apostoliques, mais en voiture et non à cheval. De plus, Gand, son neveu, estimant que son œuvre était achevée à Fontenelle, quitta le monastère et partit à Oyès, en Champagne, vivre en ermite. Mais Vendry voulait poursuivre son apostolat et continuer à participer aux travaux quotidiens du monastère. Il voulait, en effet, donner à ses moines l'exemple du travail bien fait, accompagné d'une vie de prière continuelle. Cependant, il désirait de plus en plus retrouver son Seigneur, et sa mort arriva le 22 juillet 668 dans son abbaye de Fontenelle. Pendant 3 jours et 3 nuits, il resta en extase, les yeux fixés sur une réalité qui n'était visible que pour lui. Quelques heures avant de mourir, il reprit conscience et voulut donner à ceux qu'il laissait un dernier message. « Sachez bien que si vous demeurez dans le genre de vie que je vous ai enseigné, que si vous vous souvenez de rester fondé inébranlablement sur l'unité, la charité, l'humilité, et si vous évitez toute dissension entre vous, Dieu sera avec vous chaque jour, il vous consolera et vous aidera dans toutes vos difficultés. » Et avant de rendre son âme à Dieu, il désigna les disciples qui continueraient son œuvre, Lambert et Hansbert. À l'unanimité, Lambert, futur évêque de Lyon, fut élu abbé de Fontenelle. La fête de Saint-Vendry est le 22 juillet.